C'est un moment important parce que c'est dans le cadre d'une stratégie assez lourde au niveau de l'agglomération qui a commencé il y a quelques années avec la réalisation du musée. Vous voyez maintenant comment il est intégré dans le territoire, comment il a pris sa place dans le territoire, parce que on a toujours les sites de mémoire, mais c'était comment on s'est mis un peu en valeur et comment on arrive à pouvoir passer aussi ce fil conducteur de la guerre, des affres de la guerre, et derrière de ce qu'on peut avoir comme message d'espoir et de paix. Il y a l'anneau de la mémoire qui a été inauguré il y a maintenant une dizaine d'années, mais en même temps, c'était comment sur notre agglomération et nos sites, on arrive à avoir à la fois des structures pérennes, mais en même temps des moments qui viennent rappeler ces difficultés qu'ont vécues nos prédécesseurs, nos ancêtres, mais en même temps comment notre territoire a été marqué durablement par ces phénomènes. Et donc l'idée qui a germé il y a quelque temps, c'était de tourner autour de ce tourisme de mémoire, parce qu'on est sur Vimy et Notre-Dame-de-Lorette sur des plus, si pas les plus grandes nécropoles, mais parmi les plus grandes nécropoles en France. Et donc de regarder comment on pouvait aussi, de cette fréquentation naturelle, parce qu'on a un nombre de publics assez conséquent chaque année, derrière peut-être encore aller un peu plus loin dans la transmission, dans la médiation, à travers les sites, à travers ce qui peut tourner autour. Et donc l'idée qui a été proposée par l'équipe de Sophie et puis en lien avec les équipes de l'Aglo, c'était de regarder sur un festival autour de l'image, donc autour notamment de projections cinématographiques, mais aussi de comment l'image de guerre, on avait eu au Louvre aussi une exposition là-dessus, une exposition temporaire. Et donc quand on a tout brassé, c'était de dire comment on arrive à inscrire quelque chose durablement dans le territoire qui nous permette aussi de continuer à tirer un peu le fil sur ce tourisme de mémoire, mais surtout cette façon de se souvenir de ce qui s'est passé sur notre territoire. Donc c'est pour ça qu'est née l'idée du festival d'éducation à l'image, image de guerre, guerre des images, je regarde pour ne pas dire de bêtises, et puis surtout de regarder comment on arrive à aussi marquer notre territoire dans sa diversité, parce que c'est surtout des collines de l'Artois qui ont été, là, à l'époque, toutes ont été touchées, mais qui ont été peut-être un peu plus marquées parce que justement aujourd'hui les sites de mémoire s'y trouvent par ces guerres, et notamment la Première Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, comment au travers les images, au travers les possibilités qui s'offrent sur place, on arrive à retraduire ce message et à surtout amener la médiation vers les plus jeunes, parce que la période nous le rappelle cruellement tous les jours. Mais entre les messages de paix que l'on peut avoir régulièrement dans toutes les cérémonies, que l'on peut avoir de commémoration, d'armistice sur nos territoires, les messages de paix qu'on essaye de passer au quotidien, malheureusement, il suffit d'ouvrir la télé aujourd'hui pour voir qu'entre le message et la réalité, la guerre était à nos portes et est à nos portes en Ukraine, mais elle s'est étalée depuis quelques mois et il ne se passe pas une journée sans qu'on se demande sur comment le conflit va à un moment s'arrêter d'un côté ou de l'autre. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas être attentif à la façon artistique de retraduire la guerre, parce que c'est aussi un moyen d'attirer l'attention et de véhiculer des messages de paix et d'être conscient de la réalité de ce que pouvait être la guerre. Et donc c'est pour ça qu'au travers ce festival qui va marier à la fois la partie artistique, les projections, mais en même temps les rencontres, les échanges, et puis de pouvoir avoir certaines animations autour du musée, mais pas que, autour de ces sites de mémoire, mais pas que, pour justement que notre territoire prenne toute sa place. Alors, on a la particularité, et la guerre ne s'arrête pas aux frontières géographiques d'une agglomération, mais de partager certains sites aussi avec la communauté urbaine d'Arras, et on en discutait avec Frédéric Le Turc qui... bien que ça se passe physiquement chez nous et complètement associé et surtout intéressé par cette démarche, parce qu'on voit bien que la guerre qu'on peut vivre là, c'est pas une guerre de territoire. Et donc le territoire voisin, le territoire d'Arras, qui est aussi un des territoires marqués par la guerre, va nous accompagner, même si c'est une organisation 100% Lens-Liévin, accompagné de la région, de l'office de tourisme et puis des communes, parce que c'est aussi... quelque part mettre en avant une diversité de notre patrimoine, mais surtout un élément de développement et d'économie touristique. C'est pour ça que le lien avec Philippe Duquesnoy, qui est aussi cette délégation au niveau de l'agglo, en étant en même temps président de l'Office du tourisme, était intéressante. Et donc, je laisse Jean-Marie compléter un petit peu.
Oui, bien. Comme maire d'une commune qui a été complètement détruite, je salue la décision qui a été prise par la communauté d'agglomération au travers de l'office de tourisme, dirigé par Sophie Guilhem et présidé par Philippe Duquesnoy, d'avoir décidé de profiter de la reconnaissance des chemins de mémoire à l'UNESCO comme un élément générateur d'un événement qui, effectivement, doit s'inscrire dans la durée, et la création d'un festival, ce festival d'éducation à l'image qui peut évoluer et qui a une version pédagogique, et une ambition qui l'est tout autant. Nous sommes légitimes parce que ces faits se sont déroulés chez nous. Nous sommes légitimes parce que l'anneau de la mémoire, qui est unique au monde, a été construit sur la volonté des élus de la région, que ça fait 10 ans, que c'est, le 11 novembre, ça fera 10 ans que François Hollande a inauguré l'anneau de la mémoire. Il y avait 15 000 invités.
Et il faisait beau. Et
il faisait beau. Ouais. D'ailleurs, il est venu le 1er septembre et il faisait beau aussi.
Ouais.
Donc, ce qui veut dire que bon, les temps changent. La météo aussi. Et puis, on s'aperçoit, ici en venant, j'ai pris le départemental 937, et donc je suis passé devant l'histoire, le restaurant, et puis les bâtiments, les cubes qui ont été construits par M. Falucci, dont je pense qu'il faudra demain, quand on aura un peu plus de moyens, en construire 2 autres, puisque ça devient trop petit, puisque c'est limité, c'est des cubes, donc c'est 25 visiteurs par cube. Et pour la sécurité, c'est embêtant. Mais il y avait déjà des autocars qui étaient stationnés, et des lycéens qui s'y trouvaient, et certains d'entre eux montaient à pied jusqu'à Lorette pour avec leurs documents et prenant des notes. Ce qui veut dire que, au-delà de ce qui est rituel, la cérémonie du 11 novembre qui rassemble toujours le plus de monde par rapport au 8 mai, par rapport à d'autres cérémonies qui commémorent les combats et les souffrances de celles et de ceux qui sont restés, et surtout des familles aussi, qui n'ont pas vu revenir des proches. Il y a, avec l'image et avec la coopération, qui n'est pas simple à obtenir, des archives du CPAD, qui est à la fois Défense et Ministère de la Culture, donc arriver à trouver un accord avec un ministère, c'est toujours compliqué. Avec deux, c'est très compliqué. Il faut donc en féliciter ceux qui ont réussi cette performance. Et ce que l'on sait déjà, avant même que ça commence, c'est que ça intéresse. On veut savoir. Et il y a la recherche absolue d'explications. Il y a ceux aussi qui recherchent des proches, des racines, ce qui s'est réellement passé, le travail de l'historien. Et comme il y aura des conférences, il y aura des réalisateurs, des artistes qui seront présents après la projection ou avant, eh bien, on pourra poser ces questions. Et je crois que les gens sont avides, que ce soit ces toutes générations, sont avides de savoir. Avant même que Sophie et son équipe aient réussi à monter ce festival avec ces grands rendez-vous, et on a fait des expositions dans l'espace polyvalent qui est adaptable, qui a été fait pour ça, en partie. Des expositions, par exemple, d'avions télécommandés, mais c'est pas des petits, c'est déjà la belle pièce, quoi. Et les membres de ces associations, ces collectionneurs, ont eu l'intelligence, parce que les scolaires s'y sont rendus, de leur faire faire des maquettes, de leur faire faire piloter des petits modèles. Et au-delà de la démonstration elle-même, il y avait un stand où des brochures sur le comité historique, ce qui s'est passé, sur le terrain, pourquoi il y a tel monument, pourquoi il y en a tel autre. Eh bien, on a vu que, à la fois la démonstration qui servait à faire patienter, eh bien, n'était pas le seul point d'intérêt. Il fallait, on a vu, les gamins de CL2 aller chercher des brochures et s'asseoir et les lire, regarder les images. Et l'intérêt de tout cela, c'est de voir ce qu'il y avait réellement derrière les images. Il y a des films remarquables hein, qui retracent à la fois l'horreur de la guerre, mais aussi les injustices. Ce sont des films qui marquent, parce qu'on voit que l'armée est toute puissante. Hein, et en même temps, elle est mal dirigée. Hein, dans la discussion, on s'apercevra que ce ne sont pas les militaires qui ont gagné la guerre, mais c'est Clémenceau qui a fait en sorte de faire la guerre et de la gagner. Et en recrutant parmi les généraux un logisticien qui était le général Pétain. Parce que c'est la logistique qui a permis de gagner la guerre. Relever les troupes, il fallait fournir des munitions pour un soldat au front, il en fallait 9 derrière pour apporter ce qui était nécessaire pour le combat. Bon, voilà, je suis en tout cas très fier, très heureux que ce projet, qui a été longtemps un projet, voit son aboutissement par cette première séquence. Et j'espère qu'on y verra des grandes vedettes, un tapis rouge. Mais au moment où on le fait, ils auront plutôt des doudounes hein, que des que des tenues légères. Enfin, ça permettra d'avoir des défilés de mode, disons, variés.
Ce festival, donc, c'est sa première édition. Il s'inscrit dans le cadre complètement exceptionnel de ces collines de l'Artois qui ont été le théâtre de violents affrontements pendant la Première Guerre mondiale. C'est aussi effectivement, on s'est saisi des 10 ans de l'Anneau de la mémoire pour lancer cette première édition du festival, mais qui, vous l'avez rappelé, a vocation à perdurer dans le temps. Et peut-être sur d'autres saisonnalités, on verra par la suite. Ah voilà, monsieur Desquenneux pour la deuxième voix.
Comme je devais le commenter, juste vous dire, cette fierté d'en arriver à cette création de cet événement sur les collines de l'Artois. Moi, j'en suis très fier, mais on part pas de rien. Beaucoup de choses ont déjà été réalisées. Et puis, on a un site exceptionnel. On a cet anneau de la mémoire. Bravo, moi, il y a 10 ans, je crois, hein, maintenant, cet anneau. La construction, déjà. Comment ça a été construit, cet architecte, quelle idée. Enfin voilà, je trouve ça merveilleux. Et puis comment on peut l'utiliser. Vous savez, quand on voit les gens, enfin moi j'y suis allé régulièrement, on a reçu d'ailleurs dernièrement, c'était l'ambassadeur, me semble-t-il, du Portugal. Et il était là, il était venu, on a fait le tour avec lui, il a regardé pour retrouver son nom ou le nom de collègue de ses collègues. Mais ce sont des... Il y a le monde entier qui passe, peut-être pas en nombre, mais en différentes nationalités. Voilà, c'est exceptionnel. Et je crois qu'on va l'utiliser encore très très bien, mais tu vas le dire dans ton programme, par exemple, ce mapping, on peut le dire comme ça, qui va avoir lieu sur ce site. Moi, je veux être là, en tout cas, parce que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Voilà, moi j'en suis très très fier, c'est ce que je voulais vous dire, sur cet ensemble, sur ces collines de l'Artois. Et quand je dis qu'on ne part pas de rien, c'est aussi le fait que... on a déjà fait des expositions sur ces images de guerre. L'éducation à l'image, ça me semble important, surtout dans notre génération, avec l'IA qui arrive et tout ça. Peut-être qu'il y a un gros travail à faire. Mais là, on a déjà, sur cette éducation à l'image, fait un gros travail avec le CPAD, par exemple. Tu vas en parler aussi ? Donc je dis rien ? Mais moi, je suis, à chaque fois qu'il y a eu, à Souchet, chez Jean-Marie, au musée 14-18, les expositions de photos qu'on a pu voir ensemble, c'était extraordinaire. cette femme, Nina. Vous voyez, il y a cet événementiel que l'on va créer sur les collines de l'Artois, mais on a déjà fait un gros travail en amont. Et maintenant, on va populariser, comme on l'a fait à travers la Sainte-Barbe. Ça commence, vous savez, petit, on a les idées, ça vient petit à petit. Et ensuite, ça explose, comme ça explose pour cette 7e année, la Sainte-Barbe.
En fait, le centre d'histoire, vous l'aurez remarqué, alors c'est plus de 300 photographies, 200 ou 300 photographies qui sont présentées, j'ai toujours un doute sur le chiffre. Mais c'est vraiment le médium principal qui a été choisi. Dans l'exposition Derrière les images, on a indiqué qu'effectivement la Première Guerre mondiale, ça avait été la mise en place de la Société photographique des armées. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose autour de cette question de l'image, image amateur, image officielle, qui est déjà dans le projet scientifique du Centre d'Histoire. Et on s'est dit comment aller plus loin, comment aussi, quand on transmet la mémoire, je pense que c'est, on l'évoquait à l'instant sur la Sainte-Barbe, il y a cette question de comment on aide les générations d'aujourd'hui, et puis même chacun d'entre nous, à reconnecter aussi avec notre présent, avec ce qui est contemporain, pour se réapproprier cette mémoire et faciliter la transmission. Je pense qu'on est vraiment dans cet état d'esprit. Donc à l'instant, vous parliez de la Sainte-Barbe, c'est pareil, on a réinterprété là pour le coup une tradition et veillé à la, comment dire, à la faire perdurer en la travaillant de manière plus contemporaine avec des grandes compagnies. L'état d'esprit dans lequel on est sur ce festival d'éducation à l'image, c'est bien aussi de travailler à la transmission en essayant de prendre appui aussi sur des choses qui sont plus contemporaines, sur l'image. Cette première édition, elle est très fortement marquée par de la projection. On verra, il y a deux expositions qu'on valorise aussi, mais c'est beaucoup de projection. On espère sur les années suivantes, c'est un peu pareil que Sainte-Barbe dans les modalités, on part sur un noyau et ensuite on développe. On espère développer encore d'autres partenariats, notamment sur la question de la photographie, on a un nouveau partenaire. Sur cette édition-ci, alors c'est pas sur... on a trois partenaires, on travaille avec Sérimania, donc vous connaissez évidemment, qui est à l'origine de ce festival des séries à Lille, qui est un de nos partenaires, avec Cineligue, pareil, hein, qu'on connaît aussi pour être travailler déjà lui sur la question de l'éducation à l'image, la transmission sur la question du cinéma, et puis avec le CPAD. Et on a d'autres perspectives de partenariat dès 2025 sur la question de la photographie.
Et quelquefois, on a aussi des partenaires qui sont imprévus. Moi, je me souviens de ce que nous avons produit avec les photographies d'une jeune fille pendant la guerre. C'est Mima, je crois. Mina. Elle est devenue un partenaire, elle est décédée, bien entendu. On a cette récupération, cette exposition à l'image qui était exceptionnelle.
On a des surprises, on tire un fil.
Voilà, un partenaire.
Vous allez le voir là, dans cette première édition. Moi, personnellement, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur, vous verrez, la journée du dimanche après-midi. On est rentré par un film. Et puis on a découvert un homme complètement passionné, on verra un documentaire, je spoil un peu ma propre présentation, mais sur le dimanche après-midi, moi j'ai un gros coup de cœur, un peu à l'image de ce que vous partagez sur Mina, sur l'histoire de Madeleine Poliak, qui est une femme formidable, vous verrez après. Donc cette première édition, beaucoup de projections qui ont lieu principalement à la salle polyvalente de Souchet, mais aussi je vais d'abord présenter la programmation vraiment grand public, mais aussi des temps pour les scolaires, aussi à la salle polyvalente de Souchet, donc le vendredi, et des temps pour appréhender ces questions de la guerre avec des enfants plus jeunes, c'est un sujet un peu délicat, qui nous anime aussi au quotidien au centre d'histoire, puisqu'on est là dans une transmission de sujets qui sont quand même difficiles et lourds à partager avec les plus jeunes, et donc des temps parents-enfants autour de projections de deux films. Je vais dérouler la projection, la programmation. Dire aussi qu'en fait on a souhaité travailler sur un fil conducteur pour cette première édition, qui est la question des femmes. On voulait dès le démarrage aussi indiquer que ce festival, c'était pas un festival surtout pas l'apologie de la guerre, bien sûr, mais qui était aussi focusé sur la question des combats uniquement. C'est aussi l'arrière-front qu'on va montrer, des thématiques souvent invisibilisées. L'idée de image de guerre, guerre des images, c'est de dire aussi finalement les images qu'on montre, qu'elles soient de fiction, documentaire, officielle, amateur, elles induisent dans l'imaginaire collectif l'idée qu'on se fait des conflits d'hier et d'aujourd'hui. Et l'image est du coup des fois une véritable arme de guerre en elle-même et elle contribue des fois à donner de la visibilité à certains et à invisibiliser d'autres. Et sur la question des femmes, c'est précisément un peu le propos, on soumettra à l'avis d'experts, vous allez voir après dans la programmation, le sentiment que peut-être l'image des femmes en temps de guerre, elle est assez invisibilisée, souvent réduite au seul statut de victime, alors que les femmes en temps de guerre, elles ont un rôle très important. Et c'est aussi au travers des projections qu'on a sélectionnées, le choix qu'on a fait d'aller challenger un peu ce sujet-là, dont on ne parle pas forcément tout le temps. Donc concrètement, c'est du 6 au 11 novembre. Effectivement, l'essentiel de la programmation se passe à la salle polyvalente de Souchez. On a une projection qui a lieu à la médiathèque de Hongres, on verra pour du jeune public, et une autre projection qui a lieu au centre d'histoire du mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette. L'ambition, je parle sous le regard de trois élus, l'ambition du festival, c'est bien d'investir l'ensemble des collines de l'Artois. Et donc, on parlait tout à l'heure d'expositions photos. J'espère qu'à terme, on aura des expositions photos hors les murs, y compris en extérieur, sur l'ensemble des collines de l'Artois. C'est des sites qui sont empreints de beaucoup d'émotions, de beaucoup d'histoires, et qui en même temps sont aussi de très beaux sites pour certains, des lieux qui sont devenus des lieux de promenade. J'entame la programmation, ça a assez duré les prologues, on a parlé de nos partenaires. Donc on va démarrer ce festival le vendredi soir avec notre partenariat avec Cinéligue. On va montrer une série qui n'a pas on va montrer une série qui n'a pas encore été diffusée au public en France, qui est une série suisse. Donc on est bien sûr sur de la fiction, ça s'appelle Davos 1917. On va présenter deux premiers épisodes de cette série. Cette série, elle met en scène une infirmière qui se trouve au cœur d'un complot un peu. Il y a bien sûr une histoire sentimentale, hein, c'est une série. Et en même temps, elle se trouve à devenir espion pour les forces allemandes. On va se poser des questions à l'issue de cette série avec un expert qui s'appelle Christophe Debout. Alors, ça n'est pas un historien, mais c'est quelqu'un qui a contribué à l'exposition « Les infirmières héroïnes silencieuses » au musée de Meaux. C'est un cadre infirmier qui est par ailleurs responsable d'une formation d'infirmier et chercheur, et qui s'est spécialisé sur la question des infirmières pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il viendra apporter à la fois un éclairage sur le rôle des infirmières pendant la Première Guerre mondiale et un peu... apporter un regard critique sur le film. Là, on est vraiment sur la programmation grand public. En amont, on n'a pas repris, mais en amont de cette projection, à 18h, il y aura véritablement la soirée de lancement avec les temps protocolaires, le vernissage d'une des deux expositions, on va en parler juste après, là aussi dans la salle polyvalente. On passe au samedi. Le samedi, justement, on parlait à l'instant de l'exposition. On aura cette exposition Capturer l'engagement. Donc là, c'est le sergent Cyriel Sicard, qui est donc une photo-reporter de l'ECPAD, qui viendra documenter un peu son travail. Là encore, l'idée, c'est aussi de casser l'idée qu'on se fait des photo-reporters. Il y a énormément de photo-reporters de guerre qui sont des femmes. Certaines d'ailleurs très connues, j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'accueillir sur le festival aussi. Elle viendra expliquer, alors elle a suivi notamment l'opération Barkhane, ses photos seront présentées, elle montrera comment elle se retrouve dans des conditions extrêmes, alors fois évidemment extrêmes liées au conflit, mais des fois extrêmes aussi en raison des conditions climatiques, en raison aussi de la charge émotionnelle, des moments qu'elle vit au contact des populations civiles. C'est tout ce travail qu'elle viendra expliquer de 14h à 16h, effectivement, avec un échange avec le public. Son intervention sera suivie d'une première projection d'un film documentaire. Donc on est vraiment dans cette logique de festival, hein, où on peut s'enchaîner des projections, des échanges, des débats. Pour les boulimiques, il y a vraiment de quoi passer tout le week-end sur le territoire et effectivement enchaîner les projections. Je reviendrai après sur le principe de... Donc tout est gratuit, mais on va travailler sur des... On peut venir à la projection ou selon des passes à la journée. Voilà. Donc là, on choisit de projeter un film documentaire d'Olivier Sarrazin, sorti en 2014, qui s'appelle « Derrière la muraille d'acier », ce qui nous a intéressé. Donc ce film documentaire, il traite de la période de l'occupation pendant la Première Guerre mondiale. On y voit des photos de Lens, des photos de Lille, jusqu'à Sedan évidemment. On parle à la fois de l'humiliation des populations pendant cette période d'occupation et puis de la destruction de tout l'outil industriel, ce qui est chez nous très important. Et à l'issue, on aura un temps d'échange avec Olivier Sarrazin. Le samedi soir, on retrouve la photographie que vous avez sur l'affiche du festival. On projettera ce film de Xavier Beauvois. Xavier Beauvois, vous savez, c'est un réalisateur qui est originaire de la région, puisqu'il est d'Auchel. On connaît des dieux et des hommes, souvent on parle de ce film-là. Et il a consacré, il voulait consacrer un film à la Grande Guerre. Et sur les conseils de sa réalisatrice, de sa productrice, il a souhaité prendre la question des femmes et de l'arrière-front. Comment les femmes pendant la Grande Guerre continuent à tenir, alors là en l'occurrence, une ferme, et font tourner la société, mais il le dit, elles ont construit des trains, des tramways, enfin, on en parle encore trop peu. Et on accueillera une jeune doctorante, Candice Grelot, qui est actuellement en train de mener, donc qui vient de l'université de Lyon 2, et qui est à la fois spécialisée sur la question des femmes et de la ruralité, et mène une thèse sur les familles de cultivateurs pendant la Grande Guerre mondiale, donc une experte du sujet, qui, quand je l'ai eu au téléphone, m'a dit « j'ai déjà adoré le livre, elle n'avait pas encore vu le film, donc elle est en train de le visionner, et elle viendra apporter un propos critique et complémentaire à cette projection de Xavier Beauvoir. » Et juste dire effectivement Xavier Beauvoir, on l'a eu au téléphone, hein, c'est notre collègue Jérôme qui on a pris attache avec lui, il n'était pas disponible, mais il était très touché qu'on diffuse ce film, il aurait vraiment aimé être parmi nous parce que c'est quelqu'un de la région et il était...
Du Pas-de-Calais.
Exactement, d'Auchelle, ouais. Voilà, il était vraiment touché qu'on passe à cet endroit-là, ce film-là. Voilà, donc ça c'est... Pour nous, c'était un chouette échange. Sur le samedi soir, on a fini. On arrive sur le dimanche. Donc le dimanche, on commence le matin vers 11h. Et là, on projette un film documentaire qui a été réalisé par deux réalisateurs de la région, Robin et Germain Aguès, qui sont actuellement en train de réaliser un film documentaire sur la catastrophe minière de Liévin. Ce serait intéressant aussi d'en échanger avec eux. Ce film documentaire, il est sur l'histoire de quatre femmes, mais qui étaient en fait enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fois. Certaines avec des réalités différentes. L'une d'entre elles était fille d'un conservateur de musée. L'autre a connu la déportation. Enfin, là, on a cette photo de Lily Léniel qu'on connaît assez bien en région, puisqu'elle va dans beaucoup d'établissements scolaires. Et on aura un temps d'échange après, à l'issue, avec les réalisateurs. Et puis on arrive sur mon coup de cœur, mais bon après c'est très personnel, hein. De temps en temps on a le droit aussi de petites sorties personnelles, d'accord. Là en fait c'est l'histoire on a commencé par ce film, c'était au départ on avait vraiment l'intention de projeter ce film Les Innocentes d'Anne Fontaine, donc là on retourne sur la Seconde Guerre mondiale cette fois, et on va en Pologne, parce que c'est vrai que nous en fait on a toujours cette idée de l'armistice 45-46, mais en Pologne les choses continuent après l'armistice en France, et donc on se plonge dans la Pologne à cette époque-là, et on suit l'itinéraire d'une femme médecin qui s'appelle Madeleine Poliak, et pour le film elle s'appelle Mathilde Beaulieu. Elle est envoyée pour récupérer les compatriotes qui sont encore sur le front avec 11 autres soignantes. Il faut quand même se rendre compte qu'on est envoyé à cette période-là, donc 12 femmes, dans des conditions quand même assez dangereuses. En réalité, elle part d'abord, je ne vais pas tout vous spoiler, mais elle part d'abord et elle est rejointe à sa demande par un renfort de 11 autres femmes de la Croix-Rouge. Il se trouve que dans toute cette mission, à un moment donné, elle est confrontée à... Elle trouve des 30 bénédictines qui sont complètement recluses et dont plusieurs d'entre elles ont subi des viols de soldats russes et allemands. Certaines d'entre elles sont en passe d'accoucher et c'est elle qui gère complètement cet épisode évidemment douloureux de l'histoire. C'est une histoire qu'on connaît comme assez peu, alors que voilà, cette femme médecin, elle est morte très jeune. Elle a été décorée de la Légion d'honneur par le général de Gaulle. Moi, en tout cas, dans mes livres d'histoire, je n'en ai jamais entendu parler. Voilà. Il se trouve que son neveu a fait aussi la connaissance finalement posthume de sa tante. En fait, sa mère, à son décès, lui remet une enveloppe avec un tas d'informations sur l'histoire de cette tante dont il entendait parler, mais sans avoir... Il n'a pas tout de suite eu le cran d'ouvrir cette enveloppe, il l'a fait quelques années plus tard. C'est un écrivain, c'est un réalisateur, et donc c'est lui qui a travaillé avec Anne Fontaine, qui a travaillé sur la base du livre qu'il a écrit, Madeleine Poliak, L'Insoumise. Je vous invite à à lire. Et il a travaillé avec, sur un documentaire où là, on documente toute la mission. En fait, il a retracé tout l'itinéraire de sa tante et plus que ça, tout l'itinéraire aussi des 11 femmes qui ont accompagné sa tante, donc qu'on appelait l'escadron bleu. Aujourd'hui, il parcourt un peu la France et au-delà pour faire reconnaître cette mémoire, celle de sa tante et celle des autres 11 femmes. Il sera présent ce dimanche avec nous. Je pense que ça reste un moment extrêmement émouvant. Et on a proposé aussi que, pour lui donner le change, on invite aussi Henri Dudzinski, que vous connaissez sans doute, notre ancien consul de la Pologne, qui est un collab sur la question de la Pologne. Et je pense que cet échange sera à la fois émouvant, extrêmement instructif aussi sur des choses qu'on apprend peu. Cette question de la grande guerre. Donc on est vraiment dans cette idée de ces images qu'on... Voilà, l'existence d'images, l'absence d'images, permet des fois de rendre visible ou invisible certains événements historiques. Voilà pour la partie du festival qui a lieu jusqu'au dimanche. Et le 11, évidemment, on retrouve notre temps fort commémoratif. Comme chaque année, et en même temps un peu différemment cette année, on a cette montée au flambeau. Donc on est une retraite au flambeau, mais cette fois on monte. Et on monte pour une bonne raison. L'anneau de la mémoire sera entièrement vidéomappé à 360 degrés. Donc l'anneau de la mémoire est lui-même une prouesse architecturale et on va essayer d'avoir une prouesse vidéo mapping à la hauteur du monument. Pour, vous le savez, les noms, alors près de 600 000 noms, je ne retiens jamais exactement le nombre exact, mais voilà, ont été gravés sur cet anneau de la mémoire rendre hommage à ceux qui sont tombés en Nord-Pas-de-Calais indistinctement de leur genre, de leur grade, de leur nationalité, évidemment. Ça a été le fruit d'un travail colossal. Et il arrive parfois que, soit au gré des corps qu'on redécouvre, soit parce que des familles sollicitent la région notamment, on refasse une enquête et on redécouvre des noms. Il me semble que 29 noms depuis le début ont été rajoutés sur cette plaque des oubliés. 15 nouveaux arriveront, sont d'ailleurs en cours de gravure et seront donc dévoilés à l'occasion du 11 novembre en début de soirée, en présence des élus de la région, etc., et des familles. Donc un temps particulièrement important sur ce 11 novembre, juste avant, effectivement, au centre d'histoire, comme habituellement, on aura un petit temps pour préparer des lampions, avec un sérigraphe qui nous fera un petit atelier de sérigraphie sur lampion, etc. Voilà pour la partie grand public de ce festival. Je voudrais faire un focus sur deux points. Le festival en famille, donc... c'est quelque chose qu'on veut encore approfondir dans les années à venir, mais on est vraiment attentif à cette question, et c'est souvent des parents nous posent la question, ou même des professeurs nous demandent comment faire. Enfin, voilà, est-ce qu'on peut venir avec du jeune public dans ce musée? C'est vrai qu'il y a des images qui sont particulièrement dures. Comment on appréhende ça avec du jeune public? C'est une vraie question. Et donc on a souhaité proposer deux projections de films animés, donc Adama et le Monde des Souffles. C'est la première projection qui aura lieu à la médiathèque de Angres en collaboration avec nos collègues de la CAL, dans le cadre notamment ceux qui travaillent sur les mioches ou cinoches. Cette projection, elle parle effectivement d'un jeune garçon d'Afrique de l'Ouest qui a été envoyé sur le front pendant la Première Guerre mondiale, donc un déracinement complet dans un contexte tout à fait particulier. C'est un animé, donc voilà. Et ça sera suivi d'un temps d'échange avec une jeune femme qui s'appelle Mélanie Gillemand, qui a l'habitude d'animer des cinéphilos avec les enfants, et qui dit, hein, vous le retrouvez dans le dossier de presse, elle dit qu'il faut savoir parler aussi avec les enfants de la question de la guerre, de la mort, évidemment avec les bons mots, de la bonne manière. C'est ces sujets-là qu'on veut, donc ça sera un temps parent-enfant. Animé. On a un deuxième qui a lieu, lui, au centre d'histoire, où là on projette Dounia et la princesse d'Alep. On est plutôt sur les questions liées à l'exil. On sait aujourd'hui que les enfants sont à la fois confrontés à des images assez facilement, alors via les téléphones portables. J'avais lu une statistique, donc à 60% des enfants regardaient le JT avec leurs parents, quel que soit leur âge. Donc de fait, en ce moment en tout cas, ils voient des images de guerre. Par ailleurs, On peut avoir aujourd'hui un petit camarade de classe qui vient d'Ukraine ou d'ailleurs et qui est là pour des questions qui sont souvent liées à des questions de guerre. Donc comment, à un moment donné, on arrive à répondre aussi aux questions des enfants? C'est tout l'enjeu. Donc là, ce deuxième film elle sera suivi d'un temps de parents en change. Et là, c'est une éducatrice spécialisée qui travaille en psychiatrie infantile à Hénin-Beaumont qui viendra à l'issue animer ce temps de partage informel et informel avec les parents et les enfants. Donc ça, deux temps très spécifiques sur la famille. Et puis, une journée dédiée au public scolaire. Donc, on aura donc le vendredi, en amont de l'ouverture du festival, une journée entière dédiée aux scolaires. On accueillera, alors, en l'occurrence, une centaine de collégiens venus de l'agglomération et un peu au-delà, qui auront bénéficié avant le festival d'un temps en classe via Cinéligue. Donc la semaine qui précède, Cinéligue ira dans les classes pour travailler sur la question de l'image de guerre avec eux. Il est préparé à la journée qu'ils vont vivre ensuite sur site à la salle polyvalente de Souchez. Donc le matin, ils auront la projection de la fameuse série Davos 1917 et auront l'occasion d'en débriefer avec Perrine Kenson, qui sera d'ailleurs l'animatrice de l'ensemble de ce festival tout au long du festival. C'est elle qui jouera le rôle de modérateur, d'animatrice des débats. Elle est journaliste et critique spécialisée en série et en cinéma. Elle est aussi enseignante dans une école parisienne de cinéma. Et c'est elle qui viendra travailler avec les élèves échanger avec les élèves à l'issue des projections. Et puis l'après-midi, ils rencontreront la photographe de guerre. On a déjà fait au centre d'histoire de proposer des rencontres avec des photoreporters qui viennent avec leur paquetage, qui expliquent exactement comment ils partent en mission. C'est à la fois une découverte d'un métier et en même temps aussi la possibilité d'évoquer aussi toutes ces questions autour des conflits, de la couverture des conflits. Juste pour terminer, on parlait d'exposition. Donc effectivement, alors je pars toujours dans le mauvais sens. Voilà. Donc on a effectivement les photos de du sergent Cyriel Sicard seront exposées à la salle polyvalente pendant la durée du festival. Et évidemment, on en profite aussi pour rappeler l'existence de notre exposition au centre d'histoire, donc coup d'envoi la Grande Guerre et les sports collectifs, qui, pour ceux qui ont eu l'occasion de la couvrir, mais je crois que c'est le cas de chacun d'entre vous, a aussi un focus spécifique sur la question des femmes et du football féminin particulièrement. Voilà, c'était d'ailleurs quelque chose que signalait Xavier Beauvau. Il était assez frappé par le sort qui était réservé aux femmes à l'issue de la guerre, où effectivement, à la fois, elles ont complètement contribué, montré la capacité à faire, à être autonome, et puis elles ont été après gentiment rappelées dans des tâches beaucoup plus ménagères. Mais... voilà.